Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui, un petit épisode particulier sur Koh Lipe, parce que Yana a eu la chance de partir avec une amie à Koh Lipe, donc ce sera un petit interview des aventures de Yana à Koh Lipe.
Bonjour.
Alors déjà, t'es partie d'où?
Alors, je suis partie de Patalong. On a pris un van à la station van de Patalong jusqu'à Thiaï. Alors le premier van, c'était 90 bahts.
Oh, ok.
Et de Atia, il y a Pak Bara, c'est là où se trouve le port des bateaux pour l'été. Il me semble que c'était 130 bahts.
Ok, à peu près, ouais, on fait 2,50 €.
Le trajet jusque là-bas est raisonnable.
À peu près 5-6 €,
tu sais. C'est ça. Il faut compter 5 heures de route au total, je dirais, avec les temps d'attente des vannes.
Ouais.
Faut prévoir, en sachant que il n'y a que 3 horaires de bateau pour Koh Lipe, 9h30, 11h30 et 13h30.
C'est quoi comme bateau?
Des speedboats.
C'est que des speedboats.
C'est que des speedboats parce que ça fait 1h30 en speedboat par beau temps. Donc en ferry, ils considèrent que c'est trop long.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de ferry.
Exactement.
D'accord. Du coup, c'est combien la place dans un speedboat?
700 bahts.
700 bahts, presque 20 €.
Ouais. En sachant que les prix varient selon les saisons apparemment.
Toi, t'as eu un bon prix.
Oui, parce que l'ami avec qui j'étais, c'est une amie qui a vécu à Koh Lipe et donc du coup, ils la connaissent.
Donc, ils ont fait un tarif.
Ils ont fait un tarif comme, en gros, un tarif local, en fait, ce qu'on pourrait dire.
Ouais, faut compter 25-30 € le trajet en speedboat.
De ce que j'ai entendu, ça, dernièrement, c'est monté jusqu'à 750 bahts le billet de bateau, mais c'est jamais monté plus haut.
Ah, donc ça dépasse jamais vraiment les 25 €.
Non.
Ah.
Selon la saison, ça peut descendre à 500 bahts, selon.
D'accord. Donc ensuite, vous avez pris le bateau, speedboat, 1h30, c'est comment?
On n'a pas eu de mauvais temps, donc c'était bien. Ça se passe plutôt vite, il y a des jolies îles sur le chemin, ça fait un joli paysage. Rien à signaler, il y a des gilets de sauvetage, si on ressent le besoin d'en mettre un, il l'oblige pas.
D'accord.
Mais il y a dispo pour tout le monde. Les sacs à dos, en général, quand on prend le billet de bateau, ils vont demander est-ce qu'on veut qu'ils prennent en charge les bagages. Tout ce qui est valise, c'est glissé sous les banquettes du bateau. Tout ce qui est sac à dos, backpack, ce sera mis sous plastique au cas où. Et après, j'ai pas vu où est-ce que c'était rangé dans le bateau. Il y a peut-être une soute pour les backpacks.
À l'arrière, peut-être.
Ils étaient pas visibles comme ça.
Ça marche.
Ils les déchargent à l'arrivée sur le port, ils les déchargent eux-mêmes. Et après, t'as juste à récupérer tout ça.
Donc le port à Koh Lipe, c'est un vrai port, un ponton?
Non, du tout, c'est un ponton flottant.
Les espèces de boudins bleus, là,
les carrés plastiques bleus. Exactement, les cubes plastiques.
Qui s'encassent les uns dans les autres.
Exactement. À l'aller, ça va, on n'a pas eu beaucoup de vagues, donc c'était plutôt facile à descendre. On arrive tout de suite sur une plage de sable fin, blanc, quand c'est marée basse, quand c'est marée haute. On est quasiment direct aux escaliers pour sortir de l'eau. Ouais, première impression, c'est une eau cristalline dès le ponton. On voit plein de jolis petits poissons, l'eau est translucide, bleu, comme les Maldives, comme on a les images des Maldives.
C'est pour ça qu'on appelle Lipe les Maldives de la Thaïlande.
Exactement. Et vraiment un sable blanc et fin, c'est pas souvent en Thaïlande pour l'instant, aussi fin, aussi blanc. Ensuite, on a plusieurs possibilités. Mon amie, comme elle connaît bien l'île, etc., qu'elle avait son backpack un peu lourd, j'avais une petite valise, un sac à dos, elle a préféré prendre un taxi sur place. C'est des taxis scooters avec un sidecar thaïlandais.
Ouais, c'est plus gros qu'un sidecar.
Oui, mais c'est, genre, pour les étrangers, je sais pas trop, ceux qui connaissent pas, comment ils peuvent le visualiser.
Bah, en gros, les Thaïlandais, ils ont des petits shops ou des petits...
Boui-boui, hein.
Des petits tuk-tuk comme ça. En fait, c'est un scooter normal où on va greffer un sidecar, c'est une structure en métal qui va vous donner la taille d'une voiture, en fait. Hein. C'est vraiment assez grand, vous pouvez vous asseoir à 5, 6, voire plus.
C'est ça.
Et certains vont avoir un toit, certains,
exactement,
comme je vous dis, ce sera un petit shop de nourriture, etc. Vous pouvez voir ces véhicules, surtout dans les endroits locaux, dans les endroits comme Phuket, etc., où principalement ils vont s'en servir même pour livrer de la glace, pour livrer du ciment, dans des endroits qui sont pas forcément très accessibles en voiture. En tout cas, ça coûte moins cher de se déplacer là-dedans.
Exactement.
Donc c'est des espèces de tuk-tuk scooter avec sidecar.
Le prix d'un trajet, en général, c'est 50 bahts par personne. Donc, on a dû traverser l'île parce que nous, on est arrivé sur un côté de l'île et notre hôtel était en face de l'autre côté, sur l'autre plage. Ça nous a pris peut-être 10 minutes
aller.
Le début de la route est très chaotique. Le début de route est pas du tout entretenu, c'est des sables avec des trous, donc ça va beaucoup sauter, bumper, faut bien s'accrocher. Les chauffeurs sont plutôt marrants. Après ça devient de la route, mais pour ceux qui connaissent Koh Phi Phi, c'est pas plus large, les routes elles sont pas plus larges et les véhicules circulent dans les deux sens. Donc on se retrouve souvent bloqué à devoir laisser passer le véhicule d'en face d'abord pour pouvoir ensuite passer nous. Ça paraît très encombré, du coup ça fait un peu peur au début parce que c'est pas une grande île. À savoir que j'y suis allée la semaine dernière, c'est la fin de la saison de Koh Lipe. Donc il y avait déjà plus beaucoup de monde.
Que tu veux dire par la fin de la saison, c'est qu'en général à la basse saison, quasiment tout ferme parce qu'il y a très peu de bateaux qui vont à Lipe. Il y a très peu de choses qui se passent.
Ouais.
On peut dire que l'île est fermée, c'est pas le cas. Il y a quand même des hôtels ouverts, il y a quand même des transports, etc. Si vous venez de mai à octobre, vous pourrez toujours trouver le moyen d'aller à Lipe. Maintenant, c'est la basse saison parce que la météo est pas du tout favorable. Vous passerez pas forcément un bon séjour, même si les prix sont beaucoup plus bas, etc. C'est vrai que les gens, en général, ne vont pas à Lipe du mois de mai au mois d'octobre. Voilà.
On considère que c'est la saison des pluies, la mer est très houleuse. Rien que le trajet en bateau peut être désagréable dans ces moments-là. Quoi d'autre j'en suis à l'arrivée.
Traverser la ville.
Ouais,
voilà,
alors.
Vous êtes arrivé, vous aviez quoi comme hôtel?
Alors, on avait un hôtel, je peux donner un nom, c'était le Fora Resort. Ils ont aussi un centre de plongée associé. C'est des bungalows en bambou avec salle de bain. Pas du tout hermétique, je tiens à préciser, c'est que ventilo. Par contre, eau chaude, on en a eu pour 700 bahts par nuit. Je saurais pas dire si on a eu un tarif, il me semble que non, ou en tout cas pas de grand chose.
D'accord. Après, t'as vu d'autres types d'hôtels qui...
Alors, j'ai vu les hôtels sur plage en dur.
Un peu villa
avec des vitrées sur la plage. Prix de départ, de ce qu'on m'a dit, c'était 3700 bahts par nuitée.
Ouais, à peu près 100 euros la nuit, un peu plus.
Et je n'ai aucune idée, mais du coup, j'imagine forcément encore plus cher. Des villas... Ah oui, pardon, les premières sont en bois, mais bois fermé. Avec Arcon.
Ouais.
Les deuxièmes, c'est vraiment des villas en dur, avec piscine devant la baie vitrée, piscine individuelle, à débordement sur la plage. Là, je saurais pas dire le prix, mais vu que les autres étaient à 3700.
Ça doit être plus cher.
Ça doit être proche du 5000.
D'accord.
Voilà.
Il y a peut-être un peu tous les prix. Tu vas aller voir en ligne ce qu'ils proposent, les hôtels, etc.
Exactement.
Mais toi, l'hôtel à 700 bahts la nuit, au niveau du service, au niveau de...
Alors, au niveau du service, moi, j'ai juste eu une petite déception, comme je te disais, toi, tu n'es pas trop d'accord, mais...
Ah non, c'est pas une question de si je suis d'accord ou pas, mais c'est pas une obligation que les hôtels...
Attends que je dise, du coup. Une petite déception, c'était que, normalement, jusque-là, tous les hôtels qu'on a faits, toi, ils n'avaient pas de café tout court. Soit, on n'en parle pas, soit ils fournissaient les petits sachets de café et ou 3 en 1 et ou café noir, peu importe, instantané là, avec l'eau chaude à dispo, etc. Dans la chambre ou pas, peu importe. Là, dans cet hôtel-là, l'eau chaude était bien disponible, mais le petit sachet individuel de Nescafé, c'était 40 bahts. Et ça...
Ah oui, non, ouais.
Voilà, j'ai trouvé ça très excessif. Ils auraient mis du 10 bahts, 15 bahts, ok, à la limite, passons. Mais 40 bahts, j'ai trouvé ça...
C'est normal, c'était un petit café, quand même.
Voilà, moi j'ai trouvé ça un peu...
En termes de service, c'est limite.
Ouais, voilà.
Surtout quand on sait que partout en Thaïlande où on va, même les petits hôtels qui n'ont pas de café, quand on demande du café, ils vont aller nous en faire un chez eux.
Exactement,
ou aller demander à la voisine, ou aller en acheter un au magasin et tout, sans nous demander de supplément.
Exactement, c'est ça que je voulais dire sur cet aspect-là, c'est que bon... Après, c'était mignon, c'était un cercle de bungalows, plus ou moins privé. Enfin, il y avait des petites barricades entre les bungalows, barricades bambou. Une très belle végétation, énormément d'arbres à jackfruit, je sais plus en français comment on l'appelle. Et au milieu de tout ça, il y a une zone commune avec hamac, transat, des livres anglais, français, allemand, Une zone commune, vraiment. Avec eau potable à disposition. Par contre, les bonbonnes d'eau, vous pouvez re-remplir vos bouteilles, etc. Ils essayent de limiter le plastique. Donc ça, c'était par rapport à l'hôtel. La salle de bain, plutôt cool, carrelée et tout. Pour un bungalow comme ça, c'est la première fois que je vois la salle de bain. Elle était propre.
C'est juste du ciment peint.
Ouais, voilà. Non, c'était propre. C'était propre. Par contre, qui dit bungalow bambou et toit en baijack, c'est les toits en feuilles, un peu comme les feuilles de palmier. Forcément, quand on a eu des pluies, il y a des trucs.
C'est hermétique. Oui. Ça n'a pas été bien entretenu.
Non. Mais après, encore une fois, n'oublions pas qu'on est en première année sortie de Covid. Ils étaient en train de retaper certains bungalows, etc.
Ils ne s'attendaient même pas à avoir du tourisme cette année. Donc c'est vrai.
Ils l'espéraient, mais ne l'attendaient pas.
Ça a été. Depuis 3 ans, c'est dur pour les locaux. Ça, on s'imagine que.
Je ne veux pas trop critiquer sur ce point-là.
C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de choses en ruine, en reconstruction, abandonnées, etc. qui malheureusement prendront peut-être 2 ans avant que ce soit vraiment bien tout érodé. Après, ils ont des projets pour limiter aussi le tourisme de masse, donc il y a des choses qui risquent de bouger, on sait pas trop. C'est vrai
Ma traversée de ville avec le taxi à l'arrivée, après l'arrivée sur la plage de sable blanc et l'eau cristalline, la traversée de la ville, moralement, a été un peu difficile. Il y avait énormément de ruines, de choses détruites, mais laissées telles quelles, pas ramassées, pas déblayées. Ça m'a fait un peu peur au début. Je me suis dit, tout ce qu'on m'a dit sur l'IP, sur la beauté de l'île, etc., etc., je vous avoue que sur ça, on m'avait pas préparé. J'ai été vraiment, surprise.
Alors, pour pas rentrer dans les détails des conflits qu'il y a sur ce genre d'île, principalement, le National Park estime parfois que les constructions sont hors normes ou trop imposantes ou quoi que ce soit. Le National Park vient en équipe. Ils détruisent tout.
Ils cassent tout, en fait.
Ils cassent tout, mais ils enlèvent rien. Tout est laissé comme ça sur place. C'est vrai que ça peut être perturbant, surtout que des fois, malheureusement, il y a des choses qui bougent très vite en Thaïlande. Vous venez sur une île comme Koh Phi Phi. 6 mois après, il y a énormément de choses qui ont changé, bougé. C'est incroyable à quel point ça change vite. Et pourtant, des fois, il y a des choses qui sont détruites. Et pendant 3-4 ans, vous voyez, les gravats laissés à l'abandon et personne n'en fait rien. C'est vrai que c'est triste quand on vous dit que c'est le National Park qui dit que c'est pour laisser la nature reprendre ses droits.
Exactement.
Ah ouais, il faudrait faire un peu plus.
Tout à fait.
Donc ouais, effectivement, pour l'instant, il y a des choses. C'est sûr, quand t'arrives sur un endroit paradisiaque et t'as cette réalité derrière, c'est pas forcément très agréable.
Non.
Mais alors après ça, est-ce que t'as été nager un peu?
Oui, carrément. J'ai plus nagé sur la plage où était l'hôtel. On n'était pas sur la plage, mais concrètement, il n'y a même pas une minute de marche pour accéder à cette plage-là. Elle est très très grande, très longue, donc il y a de quoi trouver un spot assez isolé, je dirais. Je pense que même quand il y a plus de monde, je pense que c'est facile.
Ouais, de pas être les uns sur les
autres. Ouais, tellement c'est très très long. C'est pas la seule plage, bien sûr.
Il y a 3 grandes plages, c'est ça?
Ouais, il me semble que c'est ça,
plus
3 grandes plages.
Qui sont accessibles en bateau.
Tout à fait. Du coup, je suis allée nager, l'eau toujours splendide. À marée basse, c'est très drôle parce qu'on arrive tout de suite à une zone de coraux. Et du coup, sans avoir besoin d'atteindre la zone de coraux, on a plein de petits poissons, de plusieurs espèces qui viennent vous tourner autour des jambes. Ils n'ont pas forcément très peur. Ils ne cessent pas de toucher, mais si on bouge pas, il se pose limite sur vos pieds, etc. Donc ça, c'est très très joli. Et comme j'étais sur une période de pleine lune, du coup, la marée haute, la différence marée basse, marée haute était impressionnante. Et à marée haute, du coup, pour atteindre cette zone de corail, fallait y aller, hein. Fallait faire une bonne nage et c'était bien profond.
Ça peut aller jusqu'à 5 mètres, je crois.
Je profite pour faire un petit mot pour ceux qui ne savent pas. Le corail est une espèce protégée. On vous en prie, peu importe dans quel pays vous allez, ne cherchez pas à le déloger de là où il est dans l'eau. À partir du moment où vous cassez ne serait-ce qu'un petit bout, il meurt. Il n'y a pas d'option de vous pouvez le replanter ou quoi, ça ne marche pas comme ça.
Il faut essayer de pas marcher dessus, il faut essayer
quand
de pas frotter
basse,
son kayak dessus.
Exactement.
C'est vrai que quand c'est marée basse et que c'est les grandes eaux, donc les eaux vives, c'est-à-dire les grandes marées en période de pleine et de nouvelle lune, il vaut mieux éviter d'aller dans l'eau à ce moment-là pour éviter les dégâts. Vous verrez, malheureusement, des fois, il y a des Chinois qui
en
se permettent d'arracher les coraux pour pour en faire je ne sais quoi.
Juste une photo. Je l'ai vu en direct, juste une photo, le planter dans le sable, prendre une photo et le rebalancer.
Voilà, c'est, enfin.
Ça a été terrible. Après,
sachez que, officiellement, si vous êtes pris en train de dégrader du coraux, étant donné qu'il est protégé par la royauté, vous risquez une amende qui peut aller jusqu'à 25 000 euros et jusqu'à 2 ans de prison ferme.
Voilà.
Donc.
Ne jouez pas sur ça.
Voilà.
Il y a plein de petits coraux morts sur la plage.
Après, ça, c'est normal. Les marées, les vagues, etc.
Non, mais c'est normal. Voilà. Il n'y a pas de, quand c'est blanc, il est déjà mort. À partir du moment où il n'est pas blanc, vous n'y touchez pas. Désolée, c'était la petite parenthèse.
Non, mais c'est vrai que, non, mais surtout qu'avec le réchauffement climatique, on est en train de perdre la grande barrière de corail. Il faut préserver,
Et même dans les eaux vives à marée basse importante, il y a des zones où on peut aller faire du kayak sans abîmer du corail. C'est pas sur toute la longueur.
Ah bah non, corail s'installe pas partout, c'est des barrières.
Voilà, donc quand vous voyez une zone de barrière de corail, vous avez juste à vous décaler quelques mètres et vous aurez une zone sans. Donc c'est pas, on vous dit pas rentrez pas dans l'eau tout court, non. Juste à quelques mètres en plus et vous aurez une zone disponible.
Ah, surtout que le corail c'est pas une vie, c'est des milliers d'organismes qui vivent en symbiose les uns les autres.
Exactement, bah les poissons.
C'est
en
comme le tuer un corail, c'est comme faire un génocide.
Bref.
Donc.
Ensuite.
Les poissons c'est joli tout ça. Au niveau de la nourriture.
Au niveau de la nourriture, on peut trouver de tout, que ce soit de la nourriture thaï comme de la nourriture étrangère. Les prix vont être plus élevés que dans nos coins locaux comme là où on vit.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est normal vu que c'est zone touristique. Mmh. Mais c'est une île, donc ça va même être encore plus cher que des zones touristiques comme Phuket, Krabi, etc. J'ai trouvé sur la plage, là où j'étais, un resto qui faisait des plats thaï à 80 bahts avec le riz. Donc ça, c'est des prix raisonnables. J'ai trouvé d'autres restos avec des plats thaï que normalement on est censé trouver à 80 bahts. Ils les faisaient à 250, voire 300 bahts.
Vous venez plus vers du 7-8 euros.
Voilà, ça, j'ai trouvé ça un peu rude, mais bon. Passons.
Voir la qualité, la quantité, il y a beaucoup de choses à prendre.
Oui, mais il n'y a même pas le riz avec, donc ça veut dire que le riz c'est en top, donc ça te nourrit pas vraiment, c'est juste le...
Certains hôtels à Nakhon, tu vois le prix des plats, tu hallucinerais aussi. C'est pas forcément lié.
À Nakhon, c'est certain. Sur l'île, c'est la majorité.
Les restaurants ou les restaurants dans les hôtels?
Les deux.
Parce que les restaurants dans les hôtels, c'est normal qu'ils soient plus chers.
Oui, mais...
C'est partout comme ça.
L'un des derniers restos que j'ai fait, où je t'ai dit la papaya salade, le service a été horrible. La nourriture, mon amie a pris un pad thai porc, le porc avait mauvais goût, donc elle l'a éliminé, le tofu aussi, à la fin, elle a pas fini son plat. Moi, j'ai demandé une papaya salade. La somme tam. Normalement, une salade comme ça se présente, c'est de la papaya râpée avec des carottes râpées, tomates, des petites crevettes ou autre chose, des cacahuètes, etc.
Ouais, ils mettent souvent du crabe, souvent après.
J'ai eu que les trois premiers éléments. Tomates, carottes, papaya. Voilà. Donc, c'était un peu décevant sur ce resto-là, qui était un resto d'hôtel, pour le coup, sur la plage en plus. Mais là, c'était encore une autre plage. Mais ça, c'est vraiment le seul où vraiment il y a eu une grosse, grosse déception générale sur cet hôtel, sur ce resto-là. Sinon, dans l'ensemble, je suis tombée plutôt sur des bons plats. J'ai plutôt réussi à faire des prix raisonnables. Mais il faut compter une bonne moyenne de 150 bahts par repas.
Ouais, minimum.
Minimum, ouais.
4 euros par repas minimum.
Ouais. Si on veut pas se priver,
ouais, même si tu balances, si tu prends une fois à 80, une fois à 200, ça...
Exactement. Au final, tu te retrouves toujours dans cette moyenne.
À moins de manger de la mauvaise nourriture du Seven.
Qui sera aussi plus cher que sur le continent, forcément. 5 à 10 bahts plus cher par produit.
Des grandes chaînes sur l'île? Comme 7-Eleven?
Pas 7-Eleven, oui, du coup, c'est ce qu'on vient de dire. Non, j'ai rien vu d'autre de grandes chaînes que 7, et il y en a que deux sur toutes les.
Il y a deux 7.
Ouais, il y en a un sur la rue marchande, enfin la Walking Street, ce qu'ils appellent, là où on marche, où officiellement il n'est pas censé avoir de véhicule.
Mais il y en a quand même.
Et il y en a un juste à l'entrée de cette rue-là. Apparemment, celui de l'entrée, j'ai pas fait celui de la rue commerçante, mais celui de l'entrée serait plus petit et celui de la rue commerçante serait plus grand. Mais sinon, non, pas d'autres chaînes, ce sera des magasins thaï, des shops thaï.
Est-ce que t'as pu regarder un peu les prix des tours en bateau, de la plongée,
malheureusement,
du kayak?
Alors les kayaks, faut compter entre 100 et 200 bahts selon le shop où on va passer, voilà. Celle avec qui je parlais, l'anglaise, qui est en couple avec un shaolais, elle a dit, elle fait du 200 bahts, mais elle sait qu'il y a d'autres shops qui faisaient 100 bahts, mais je crois qu'elle a des kayaks transparents, c'est peut-être pour ça qu'elle les fait plus cher.
C'est
Exactement. Il y en a beaucoup qui proposent les deux types de kayaks.
D'accord.
Parce que là, c'est tellement beau et translucide.
Pas de rocher,
que... Non, il n'y a pas de rocher. Mmh. C'est ce que j'ai découvert. Moi, je m'attendais, comme à Koh Phi Phi, que dans l'eau, il y ait énormément de rochers, parce que Koh Phi Phi a subi le tsunami. Et il s'est avéré qu'en fait, je ne le savais pas, mais Koh Lipe n'a pas du tout subi le tsunami, à part une légère montée d'eau, descente et montée d'eau à peine. Ça n'a même pas vraiment fait une vague. Donc du coup, ils n'ont pas eu de rochers amenés par la grosse vague de tsunami. Du coup, c'est vraiment, oui, c'est... Les kayaks transparents là-bas valent le détour, je pense. J'ai pas fait, mais du peu que j'ai vu au bord de l'eau à pied, ça vaut le détour.
Pourquoi tu es allée à Lipe avec ton ami?
Alors, j'y suis allée parce que il s'avérait que la semaine dernière, il y avait 3 jours de fête. Ça s'appelle Loi Rua. C'est une fête des Shaolais.
Loi, ça veut dire flotter.
Voilà. Et Rua, c'est bateau. Donc, flotter bateau.
Bateau flottant.
Pour ceux qui savent déjà, en Thaïlande, vers le mois d'octobre, il y a Loi Krathong.
Qui est le craton flottant.
Voilà, qui normalement se fait d'une plaque de bambou ou de bananier.
Oh,
je crois qu'on avait fait un épisode,
Si c'est pas le cas, on en fera.
Voilà. Et donc la version Shaolais, avec les mêmes matériaux, ils vont réaliser un petit bateau qu'ils vont ensuite décorer. J'ai pu participer le premier jour à la décoration donc du bateau. Il y avait une équipe qui couper les lamelles du bateau et les agencer ensemble dans la forme du bateau. Et moi, je faisais partie de l'équipe qui, avec ces mêmes tiges de bambou, banane,
ouais.
Cœur de... C'était assez tendre, c'était marrant.
D'accord.
On aurait dit presque du polystyrène, mais pas du tout.
D'accord.
C'est naturel.
La banane séchée.
Même pas sûr qu'elle soit si séchée que ça.
D'accord.
Elle est à mi-chemin. Et donc, en fait, on devait, avec des cutters, en faire une sorte de dentelle, faire des petits triangles d'un côté, et ça fait un effet dentelle. Et ensuite, ces éléments, ils viennent les ajouter au bateau pour vraiment créer, voilà, l'habiller. Vraiment, ça fait dentelle le rendu final. Et ils ont fini avec des fleurs. Il y avait quelques Shaolais qui faisaient des sculptures. Ron, le Shaolais qui s'appelait Ron, avait fait une tortue, deux poissons différents, etc. Le bateau ensuite est posé sur la plage à côté de la scène qu'ils avaient construit pour la fête. Cette scène servait pour danser. Donc tous les soirs, il y avait musique à fond. Et il y avait deux types de musique. Musique commune où tout le monde danse comme il veut, en sachant qu'en Thaïlande, c'est très libre. On peut danser comme on veut, personne vous jugera. Mais vraiment, zéro jugement, c'est très drôle. Et il y avait des musiques un peu plus traditionnelles qui étaient marquées par un début de musique particulier, avec une note aiguë, un peu aiguë, ting, ting, ting. Et à ce moment-là, il fallait danser en ronde, tous dans le même sens, dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Ensuite, donc ça, c'était le soir. Et le lancement du bateau dans l'eau est prévu le lendemain matin à 5h30 du matin. Tout le monde va y mettre soit un cheveu, soit un bout d'ongle. Ils disent c'est pour faire partir le mauvais, tout ce qui est mauvais esprit, etc. C'est pour nettoyer. Donc on met tous quelque chose dans le bateau et au matin, il y a toute une cérémonie où ensuite ils vont le mettre dans l'eau. Malheureusement, j'ai pas assisté à cette partie-là de la cérémonie parce qu'on a eu une très grosse pluie et que ils ont un peu décalé le lancer, etc. Et ça devenait très long. Et avec la pluie, le risque de prendre froid, sachant que je commençais l'école la semaine d'après, voilà, j'ai pas pris le risque. Deuxième jour, j'ai oublié, au premier jour, il y avait une partie dans un temple où ils faisaient déjà les prix.
Ce festival, il dure combien de jours déjà?
3 jours.
C'est 3 jours, et donc du coup, vous arrivez premier jour au temple, il y a des prières, des danses, etc. Ça commence comme ça.
Les hommes sont au tam-tam.
Principalement, ils jouent que du tam-tam et de la batterie, de ce que j'ai vu.
Oui, c'est ça. La batterie, c'est
pas
que un endroit, mais non. Quand c'est vraiment notre traditionnel, c'est que des tam-tam. Ils sont exactement assis en rond, il y en a un qui chante, les autres font les chœurs. Le deuxième jour, ils ont décoré un arbre immense qu'ils avaient coupé pour le faire traverser toute la ville jusqu'à la plage. Et donc, le lendemain d'après, il fallait pareil le mettre sur un autre bateau, l'envoyer à l'eau. Et le troisième jour de clôture, il y avait pareil un autre truc à faire traverser l'île, des croix en bois. Et pareil, ça partait aussi sur l'eau au quatrième jour, et enfin quatrième matin. En fait, et ça clôture complètement, et ensuite ils sont déjà en train de détruire la scène, de remballer.
Ça va vite.
Ça va vite, ouais. C'est très intense. Il y a beaucoup de Shaolais qui ont fait du non-stop, nuit blanche pendant les 3 jours, et la journée travailler ce qu'ils avaient comme travail, shop, taxi, peu importe. Je sais pas comment ils ont fait.
Katom.
Alcool, katom, ce que tu veux, mais ils font le rythme de bout en bout. Pas tous, mais certains. Quoi d'autre?
Et donc pour conclure, le jour du départ.
Ah, le jour du départ. Le jour du départ, on voulait prendre le bateau de 11h30. Il y avait énormément de monde qui quittait l'île à ce moment-là, comme on disait, la fin de saison, la fin de haute saison. Et on attendait, 11h30, 11h25, on s'est mis sur le muret devant les bateaux et on rigolait parce qu'il y avait des vagues et qu'il y avait des gens qui essayaient de passer le ponton, mais avec les vagues, c'était un peu chaotique. Et au bout de quelques minutes, on se dit, bon, quand même, on nous appelle pas, ce serait bien d'aller voir ce qu'il en est, et c'est avéré que notre bateau était parti. Mais comme c'était un gros départ, dans ces cas-là, ils prévoient plusieurs speedboats qui partent dans la foulée, donc on l'a eu. Le nôtre est parti 15 minutes après le départ initial prévu pour nous.
Ah, ils emmènent tout le monde, quoi. Ça veut dire que tant qu'il y a du monde, il y aura un speedboat.
Exactement.
Qui viendra chercher les gens.
Exactement.
Ça, c'est une bonne chose.
Ouais. Ensuite, le retour a été un peu plus chaotique, même sur le continent, parce que on voulait pas passer par Atiaï, étant donné que ça nous rallongeait le trajet et qu'on risquait de pas arriver à temps pour mon ami, que ce soit à Krabi ou moi à Tong Song. Du coup, Trang était une meilleure option, sauf que on a eu des mauvaises indications. Quand on est arrivé au port de Pak Bara, on nous a dit de prendre un Songtao, c'est un minibus, un bus local.
Les bétaillères,
ouais. Pour nous amener à la station de van de Lang Mo. Sauf que, en fait, que ce soit sur Google Maps ou même le gars qui nous a amené, il y a qu'une seule station de van qui est notifiée, c'est celle qui va à Chiang. Du coup, on a dû marcher 1 km un peu à l'aveugle pour trouver la station de van qui nous amenait à Trang. J'ai fait un ajout sur Google Maps. Normalement, il devrait être validé dans pas longtemps.
Alors, savoir pourquoi les gens vous diront que c'est plus simple de passer par Atiaï pour aller à Krabi parce qu'il y a plus de lignes de bus, il y a plus de chances que vous trouviez un bus à n'importe quelle heure en allant à Atiaï. Et la route, elle est plus directe. C'est leurs arguments.
Bien sûr.
Personnellement, je n'adhère pas à leurs arguments parce qu'elle vous parlait de Pak Bara, des petites villes comme ça. Tout ça, c'est à Satun. Tout ça, c'est dans la province de Satun. Et c'est vrai qu'entre Satun et Trang, la route est plutôt courte. Et entre Trang et ici, ou Krabi, elle est encore plus courte. Mais c'est pas des grandes routes express. C'est plus des petites routes. Donc effectivement, les gens, ils préfèrent rouler sur les voies express parce qu'ils pensent que c'est plus rapide et plus court. C'est jamais vraiment le cas. Et les étrangers ne prennent jamais cette ligne, ne passent jamais par Trang. Ils ne font jamais Satun Trang, ils passeront toujours par Atiaï. Donc, vous indiquera, il y a très peu de chances qu'on vous indique correctement les choses, surtout si vous vous déplacez par vous-même, il y a de plus en plus de gens qui louent des voitures, etc. N'hésitez pas à poser des questions sur les forums, sur les gens qui habitent dans le coin, qui connaissent un peu, ou de demander tout simplement à des locaux, plutôt qu'à des gens qui travaillent dans le tourisme. Parce que eux travaillant dans le tourisme, ils ne réfléchiront pas, ils se diront non mais, parle pas de Trang, tu dois aller à Atiaï. Donc ils vous enverront à Atiaï, même si c'est pas pratique et que c'est moins court. Ça a pas vraiment de sens, mais malheureusement, les gens sont très bornés des fois et vous battez pas par rapport à ça.
Moi, je vous conseille vivement de passer par Trang, quoi qu'il arrive, et même d'y faire une halte.
C'est très joli.
Parce que il y a énormément de jolis spots à Trang, que ce soit plage, terre, montagne. Donc, quoi qu'il arrive, je vous conseille même de le prévoir sur votre trajet, de faire vraiment une halte là-bas de plusieurs jours. À Tia, il y a quelques jolis spots, mais c'est beaucoup moins. Vraiment, Trang vaut le détour.
Ouais, avec des belles plages comme Yongli, tout ça. Et puis, il y a aussi des très belles îles à visiter qui sont un peu plus proches de la terre. Donc, il n'y a pas forcément besoin de prendre des speedboats et tout pour aller les visiter. Koh Ngai, Koh Mook, Koh Kradam.
Tout à fait.
Donc voilà, donc c'est magnifique Koh Lipe.
Les plages sont
en haute saison et début de saison ou milieu de saison.
Je pense que la fin de saison c'est très bien parce que
avec le festival Shaolé.
Avec le festival Shaolé, ça vaut le détour. Au premier abord, ils peuvent paraître un peu distants, froids, mais si on fait un minimum d'efforts, ils sont géniaux.
C'est des gens réservés les Shaolé. Faut savoir que les Shaolé, qu'ils soient musulmans ou pas, la plupart sont musulmans, c'est vrai. C'est des gens qui
sont un peu persécutés par le gouvernement.
Parce que c'est des gens qui vivent en marge de la société et qui aimeraient continuer à vivre en marge de la société et du système. Ils ont toujours vécu comme ça. Ils aimeraient garder leurs traditions et leurs choses. Ils sont prêts à accepter certaines choses, comme passer à des bateaux plus écologiques. C'est pas forcément un problème. Mais ne pas leur laisser le droit de vivre sur les plages comme c'était avant, ne pas leur laisser le droit de beaucoup de choses comme avant, ça devient difficile pour eux, et c'est vrai que
ils se renferment
beaucoup, et si vous n'avez pas forcément de raison d'avoir une jolie conversation avec eux, ils pourraient paraître rudes parfois.
C'est ça.
C'est pas forcément le cas. Comme le dit Yana, surtout en ce moment, ils sont très persécutés avec le retour du tourisme. Il y a énormément de gens qui pensent à reprendre des business pour faire de la thune, hein. Et tous les petits shaolais qui ont des petits reggae bars, qui ont des petits bars chill, des petits restos chill,
se font détruire les bars.
Voilà. Ils se font détruire les bars où ils se font déloger et petit à petit, on leur fera comprendre que ces îles-là, c'est pour du luxe seulement. Donc c'est vrai que, Les projets engagés pour des îles comme l'IP sont pas forcément très roots et très nature. Donc je vous conseille de pas tarder, si vous êtes vraiment intéressé d'aller à l'IP, de pas tarder, y aller cette année avant que les choses commencent à trop bouger.
Début et fin de saison, pour avoir moins de touristes, ce sera moins lourd sur la route avec tous les véhicules.
Après, je vous conseille plus la fin de saison, le temps est plus clément.
Oui.
Parce que début de saison, on pouvait avoir des belles tempêtes qui viennent de chez nous et...
Pour mon séjour, on a eu des pluies la nuit.
Ici, il fait très chaud, donc il y a un orage, quoi. Il y a un orage qui va claquer, même.
Exactement.
Ça dure jamais plus d'une heure, une heure et demie.
Non, la nuit, ça a duré.
S'il n'y a pas de vent, oui.
Mais la journée, on avait toujours super beau temps, Non, vraiment début, fin de saison pour éviter la foule touristique, en fait. Parce que je pense qu'en foule touristique, ça peut être très prenant.
Janvier, février, mars, il y a moyen.
Je pense que surtout pour les gens un peu agoraphobes, ça peut vite poser problème dans les rues.
Ah ouais, parce que les rues sont étroites.
Plus les véhicules, voilà. C'est juste ça.
Donc merci de m'avoir écouté. À bientôt.
À bientôt.